En compagnie de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, David Lortolari était déjà parmi nous. Nos drôles de dames sont en train d'arriver petit à petit. Simone Rovera nous a rejoint en plateau. Il est physiquement là, mais mentalement bien ailleurs. Le Portugal s'est imposé ce soir, 1-0 face à l'Italie.
On a tous les mêmes problèmes, en fait.
Ah oui, là.
Ah, t'es pas au courant.
Ah, Portugal.
Ah, t'es pas au courant.
Match ce soir.
Ah ouais, t'es pas au courant.
Mais non, on avait envoyé l'équipe des futsal, un peu comme les Danemark, non?
tu prends du recul, t'as raison.
Ça joue au futsal en Italie, non?
Un peu,
non?
Tu sais que... Je pense qu'on est champion d'Europe en beach soccer. On a gagné hier.
C'est vrai, sans déconner.
On aurait pu envoyer l'équipe de beach soccer.
Il est heureux.
Tu sais que Cantona a été champion d'Europe et du monde de beach soccer avec la France. En tant qu'entraîneur. Hein. Pour les dire, tu sais, pour United.
Là. On s'est trompé.
Eric Cantona ou son frère?
Non, Eric Cantona. Ouais. Joël jouait, Eric entraînait. Il y avait Aubry dans les buts, l'ancien gardien de Lille et tout.
C'était l'équipe des frères. Il y avait les frères de Chiesa, les frères de Donnarumma, les frères de... C'est ça, peut-être.
Ils se sont plantés.
T'as plus grand chose à
faire. Fred Hermel également est avec nous. Salut, mon Fredo.
Je fais de nouveau mon entrée. Hola, Chico.
Voilà. Avec le son, c'est mieux, mon Fredo, bien entendu. Tiens, juste avant, messieurs, d'aborder les résultats des sélections, notamment, et d'avoir vos avis tranchés, on va se faire le tu préfères. C'est vrai que Daniel Riolo adore cette chronique.
Tu joues pas, Daniel.
Jingle préparé par Quentin Barbert.
Ce tu préfères n'a pas de sens.
Je me suis dit que ça allait pas faire long feu, cette affaire-là.
Honnêtement, qui est le plus relou de nous deux dans le tu préfères?
Je veux en trouver un qui va me plaire.
Je refuse ce préfère.
Alors, soyons transparents, à force de me faire humilier chaque lundi pendant
donc
quelques minutes,
il m'a dit vas-y fais-le.
J'ai dit à Gilbert, tu sais quoi, moi j'en ai marre, ça me fait chier. Donc il m'a dit,
écoute mon gars, tu fais le ça, Daniel, il le fait lui, et tu vas voir, ça va bien se passer.
Donc Daniel a préparé un tu préfères, il est là, c'est bon.
Non mais ouais, mais alors moi j'ai ciblé les questions.
Ah, ok, voilà. Vas-y, c'est le tu préfères de Daniel.
Elles sont que pour Nico, juste pour le faire kiffer lui.
Ah ouais, d'accord.
Tu préfères parler du Sporting ou de Benfica?
Putain, je suis vraiment obligé de choisir.
Ouais.
Oh putain, ça c'est dégueulasse ce que tu me fais, Daniel.
Allez, ah, c'est ce que tu nous fais tous les
jours. En ce moment, du Sporting, compte tenu d'actu.
Si t'es diffuseur, tu préfères diffuser le foot portugais ou le foot turc?
Bah, tu me poses cette question.
Je sais pas, tu dois évaluer le marché, la taille du marché.
Mais tu me poses cette question. La question ne se pose même pas. Mais non,
c'est
elle est pourrie.
Mieux que le foot turc.
Mais c'est, mais pour
le
moi,
foot
ça
turc,
pas
c'est un
mais
c'est mal tout. C'est ça que t'as envie de dire.
Le mec qui veut mettre les Benfiquistano, il veut mettre les que Turano. Vas-y, la dernière.
Et ma dernière question, celle-là, elle est pas sur toi, elle est pour Pierre. Ciblé encore. Tu préfères aller en vacances au Portugal avec Nico Villas ou en Grèce avec Fred Hermel?
Oh, bah, alors là, toi?
Putain.
Tu vas pas aller te faire chier une semaine à Athènes sans bouger.
Bah, c'est surtout, tu sais quoi, tu veux que je te réponde franchement? Mes vacances, si je pouvais les passer seul, ça serait pas plus mal.
Bonne réponse.
T'es
obligé de choisir. Non.
T'es obligé de choisir, c'est un tu préfères.
Oh là là, allez, le Portugal. Mon Fred, tu m'en voudras pas, hein, mais le Portugal avec le cousin.
C'est dommage,
quand même.
Je t'avais concocté une petite soirée à Madrid. Ah,
ouais, mais c'est ce que j'ai dit,
c'était en Grèce.
C'était en Grèce,
t'as rien compris. Tu penses qu'il les a déjà oubliés, ces vacances en Grèce, c'était tellement pourri.
Les gars, je vous donne les résultats. Résultats des matchs internationaux d'aujourd'hui, de ce soir. Cet après-midi, la Russie a battu la République tchèque 5-1. Alors, c'était un match amical. En Ligue des Nations, le Portugal a battu l'Italie 1-0, le buteur André Silva. Match fou entre la Suède et la Turquie. Les Suédois qui ont longtemps mené face aux Turcs, eh bien, se sont inclinés 3-2, au final, à domicile, les Suédois. Victoire donc 3-2 de la Turquie en Suède. L'Écosse a battu l'Albanie 2-0. Le Monténégro a battu la Lituanie 2-0. 2-2 entre la Serbie et la Roumanie. Andorre et le Kazakhstan ont fait match nul 1-1.
Monténégro, destination à découvrir pour les vacances. Un petit conseil du soir.
Ah.
Oui.
Maintenant que je suis en agence de voyage, je vais la monter, hein, parce que là, maintenant, à force de parler.
Le Kosovo a battu les îles Féroé 2-0 et 1-1 entre Malte et l'Azerbaïdjan.
Tu feras attention à pas trop.
On vous rappelle, hein. Alors,
Tu parlais de l'Albanie, la Riviera albanaise aussi.
Il paraît que c'est très joli d'ailleurs,
c'est
la côte.
Quelque chose à découvrir.
Faut demander à Edwin Murati ou à Loric. Ça là.
Aussi, ouais.
Non, mais il a sorti les deux Albanais qu'il connaissait.
Que je connais bien et qui sont gentils et qui, je suis persuadé, nous accueilleront, justement.
Très bien.
Et on vous rappelle, qu'il y aura un Final Four dans chaque ligue de cette Ligue des Nations et que le vainqueur de ce Final Four sera qualifié pour l'Euro. Donc il y aura forcément un petit pays entre
guillemets. T'es sûr?
Non,
excuse-moi,
Jeannot sort de ce corps.
Comment l'Italie va faire pour aller à l'Euro, là? J'aimerais bien que Simone nous explique.
Par les éliminatoires.
Ils sont dans quel groupe de la National League?
Parce que là, c'est déjà cramé, là, par
le Portugal et la Pologne.
Ils ont fait match nul.
C'est déjà fini, là.
Bah, on doit déjà penser à pas tomber en deuxième division.
Putain, t'imagines si on tombe en deuxième division, là.
Il faut pas.
Parce qu'il y a ça aussi, mais c'est
pas
en
deuxième division. Il faut pas être.
Mais c'est quoi, deuxième division? Ça sert à quoi?
Bah, le groupe B, là.
En fait, c'est dernier tour.
Qu'est-ce que ça peut faire si tu vas?
Et tu joues en deuxième division. Donc tu
seras... D'accord, parce qu'on s'en fout, parce que tu peux faire les éliminatoires.
L'orgueil.
Tu peux faire les éliminatoires, de toute façon.
Tu serais pas tête des séries.
Ouais, mais non, mais par contre, tu peux peut-être te qualifier vu que les adversaires sont un peu plus
faciles. Exactement. Mais tu sais que ça, c'est un bon calcul. Au final, si t'es une grosse nation, t'es dans un groupe pourri, tu as plus de chances de gagner ton Final Four et de te qualifier direct pour les éliminatoires, pour l'Euro d'ailleurs direct.
Parce qu'il y a un Final Four dans la deuxième division pour aller à l'Euro.
Mais pour les quatre, c'est
pour les quatre groupes.
Malte, Azerbaïdjan, Kosovo, le Ferroir, tout ça. Mais si, en fait,
c'est un bordel.
Bah ça, je pensais que j'avais tout compris, mais pas ça. Il me manquait ça.
Groupe ABCD, ok.
Donc appelons les divisions. C'est des divisions. Première division, non, deuxième division.
Non, ça s'appelle ligue. Ça s'appelle ligue.
Ouais, mais c'est plus facile.
T'as des groupes de trois dans ces ligues. Ok. Les vainqueurs de chaque groupe disputent un Final Four. Le vainqueur de ce Final Four, il est qualifié d'office pour l'Euro.
Il fait pas les éliminatoires.
Attends. Il se qualifie d'office pour l'Euro. Entre temps, t'as les éliminatoires de l'Euro. Mais si tu te qualifies via les éliminatoires, celui qui a gagné le Final Four, il disparaît. C'est l'équipe qui est juste derrière qui se qualifie. Et ainsi de suite. Pour chaque ligue. Ok. Ah, c'est compliqué, mais les mecs à l'UEFA, ils se sont dit.
Franchement, si je comprends pas,
c'est plus simple quand toutes les équipes européennes sont qualifiées.
Franchement, bah si.
64 sur 64,
non? Non, mais si je comprends pas que c'est.
Ouais, j'ai compris, j'ai rien compris.
Ok, t'as 4 ligues.
Franchement, Nico, vraiment.
C'est impossible.
Vraiment, je m'en fous de pas comprendre.
C'est vrai?
Bon, c'est pas très grave. Je regarde les matchs et puis je vois les matchs.
Hier, il a pas compris la règle de Mbappé, là, il comprend pas. Attends, Daniel, merde.
Moi, je veux savoir pourquoi l'Italie est si mauvaise et je vais me tourner vers Simone Rovera pour avoir l'explication.
On va commencer
on
par.
On a 4 heures pour expliquer ça.
Non, on va commencer par
l'Espagne. C'est le grand
acteur. Avis tranché, jingle Fred Hermel.
But d'un Espagnol pour Lens, là, c'est.
Ça y est, il faut que je change les draps, là.
Avec la voix de Jean-Louis Tour qu'on embrasse.
Mais il n'y a plus à Christian Lopez à Lens.
Non, c'est vrai.
Mais c'est
tu
pas
grave. L'Espagne a battu l'Angleterre de buts 1. L'Espagne qui sort d'une triste Coupe du Monde, qui a maintenant Luis Enrique comme sélectionneur. Et toi, ton avis tranché, mon Fred, il porte sur Luis Enrique. Et toi, tu dis, Luis Enrique l'a déjà fait. De révolutionner le jeu d'une équipe avec le Barça notamment, et tu penses qu'il peut le faire avec l'Espagne aussi.
Bien sûr, j'en suis persuadé, c'est exactement ça. Tout simplement parce que je pense qu'on a une mauvaise image, en tout cas un souvenir un petit peu brouillé de ce qu'a fait Luis Enrique Martinez, puisque tel est son vrai nom, à la tête du FC Barcelone, parce que c'est vrai que ça s'est pas très bien terminé dans les relations avec les joueurs. On a vu les conséquences avec Jordi Alba, par exemple, que le sélectionneur Luis Enrique n'a pas pris le meilleur latéral gauche espagnol, parce que c'est Jordi Alba, bien entendu, à cause des problèmes qu'il avait du temps où il entraînait le Barça. Mais je pense que le souvenir est un peu brouillé, c'est dommage, parce que Luis Enrique a fait du bon boulot à Barcelone. Rappelez-vous, c'est lui qui a permis à cette équipe d'évoluer après le dogme de Guardiola. Vous savez, c'était cette équipe qui arrivait plus à gagner parce que les gens, voilà, déchiffraient son jeu. Il avait fallu la faire évoluer, et c'est vrai que Luis Enrique avait apporté des alternatives au jeu de possession à outrance du Barça. C'est lui qui va apporter le travail en contre, le travail sur les coups de pied arrêtés, un peu plus de verticalité, un peu plus de rapidité dans les transitions, pas obligé de faire 25 passes pour arriver dans la surface adverse. Donc ça a marché. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la sélection? C'est ce qu'on a vu pendant le mondial, et notamment dans ce match horrible contre la Russie avec ses 1200 passes qui ne servaient à rien, c'est que l'Espagne était retombée dans les travers d'avant le Lopetegui, parce que le Lopetegui avait réussi, et Simone s'en souvient avec ce 3-0 face à l'Italie au mois de septembre, il y a tout juste un an. Cette Espagne, quand elle n'est pas bien coachée, elle retombe dans son naturel ennuyeux avec ses passes très stériles. Et Luis Enrique, c'est au-delà d'un mi-tranché, je pense que c'est un constat que tout le monde fait ici, et ça n'a été que renforcé par la très belle victoire des Espagnols en Angleterre à Wembley, ce qui est pas rien samedi soir, puisque les Anglais ça faisait 11 ans qu'ils ne perdaient pas chez eux à Wembley. Donc Luis Enrique, je pense qu'il va réussir, termine la phrase, il va réussir à faire évoluer le jeu de l'Espagne, parce qu'il l'a déjà fait avec le Barça, et c'était exactement les mêmes cas de figure.
Alors, il y a quelque chose de formidable avec l'Espagne, c'est que la domination de ce football et de ces clubs depuis quelques années fait que, comme par magie, à chaque fois qu'une nouvelle période démarre, l'Espagne apparaît comme l'épouvantail, le favori.
Ouais, le favori.
Ils sortent d'une Coupe du Monde Qatar.
Mais pour une raison très particulière quand même, pas sportive.
Et deux jours après, ils sont de nouveau l'épouvantail de l'Europe ou du monde du foot.
Pas l'épouvantail.
Néanmoins, il faut quand même dire que depuis donc l'Euro 2012, largement dominé et brillamment gagné.
Trois phases finales où c'est catastrophique.
Il y a eu trois phases finales de raté, ce qui est pas rien. Après avoir dominé, parce que enchaîné 2008, 2010, 2012, on a dit à quel point c'était fabuleux. Ouais. Il n'empêche que derrière, trois phases finales ratées. Alors, pour des raisons qui sont certes différentes, mais à chaque fois, Fred, et moi je suis tenté de te suivre, et à chaque fois, moi, je suis séduit. Puisque à chaque fois, moi-même, hein, ce que je dénonce là, je suis le principal coupable. Puisque moi, j'en faisais mes favoris avant la Coupe du Monde. Et j'en fais, tu me demandes le favori pour l'Euro? Je te dis l'Espagne! Alors qu'ils viennent de se ramasser. C'est ça, hein, qui est magique avec cette sélection, parce qu'ils ont les joueurs les plus techniques,
bah, c'est
parce
ça.
Que dans leur
ils
club,
ont les beaux joueurs.
Parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils dominent dans leur club et tout ça. Mais à un moment, il y a une réalité, c'est ces trois phases finales. Alors tu vas me dire, la dernière Coupe du Monde,
franchement,
ils l'ont
on peut
pas raté
juger,
pour des raisons sportives. Ok,
non,
mais
ça fait partie des choses.
Mais ça fait partie des choses. Lopetegui aussi, il avait changé le jeu de l'équipe. Résultat à l'arrivée, le mec il trouve le moyen. Bon, on revient pas sur l'affaire. Bref. De se faire virer une semaine avant le début de la compète et de pas être à la tête d'une sélection qui se plante. Donc, moi je te suis, je crois Luis Enrique qui avec le Barça a réussi à gagner une Ligue des Champions. Attention, par ailleurs, en club, ça n'a pas été formidable et on s'est pas finalement battu pour l'avoir, alors qu'à un moment on disait qu'il était sur les tablettes de tous les clubs.
Oui, parce qu'il a un caractère un peu particulier, donc
je
suis sûr que dans les négociations, il n'a pas été forcément le plus ouvert.
Quoi. Je veux bien suivre parce que je sais la qualité de ce football. Mais maintenant, après trois phases finales ratées, j'attends parce que quand il se retrouve dans les compétitions face aux équipes avec les styles fermés comme on a vu lors de la dernière Coupe du Monde, ils peuvent avoir des difficultés comme tout le monde malgré leur qualité technique au-dessus de la moyenne.
Alors moi je dis pas, et je vais passer la parole à Pierre, je dis pas que l'Espagne va gagner, je dis que Luis Enrique pourra faire évoluer le jeu de l'Espagne comme il l'a fait avec le Barça, parce qu'il a cette expérience là. Voilà, parce que il y a une alternative au jeu
avait déjà fait,
l'Espagnol. Comment Lopetegui? Oui, mais sauf que Lopetegui n'était pas là pendant le mondial. Et un entraîneur, ça compte, hein, sur un banc. Donc voilà.
D'un coup, les mecs se sont pas dit parce que Hierro est arrivé 4 jours avant. Ah bah tiens, on va pas jouer comme disait Lopetegui. Alors que Hierro, il était dans le staff. Là, excuse-moi,
ça te fout un peu la merde. T'as un joueur qui joue à la place de l'autre.
Non mais d'accord, mais bon.
Ces machines-là sont facilement enrayables.
Ouais. Bah ouais, tu vois.
Ouais, bon.
Franchement,
Moi je partage. Je vais pas être très original sur ce coup. L'Espagne a quelques-uns des plus beaux joueurs du monde. T'es tenté à chaque fois, effectivement, de la mettre comme favori d'une grande compétition parce que t'as des joueurs qui flambent en club, qui marchent bien, etc. T'as effectivement là un entraîneur. Qui paraît assez compétent pour bouger un petit peu les choses. Mais oui, ça fait un petit moment que ça marche plus. Et pourtant, il y a effectivement d'autres entraîneurs qui ont récupéré l'équipe et qui ont fait du bon boulot et qui se sont plantés quand même au moment des compétitions. Donc on va être obligé ce coup-ci d'attendre.
Il gagne en Angleterre là. Et franchement, le jeu dynamique, on l'a vu.
Ouais, c'était bon.
Un jeu beaucoup plus direct, c'était pas mal. C'était un bon match.
Tu vas pas. On est en septembre 2018. Il est déjà en train de nous dire que l'Espagne va gagner l'Euro 2020.
Mais comme on était séduits, Fred.
Mais j'ai pas dit ça. Mais c'est toi qui as dit. J'en fais pas un favori. Moi, tu vois comment tu me manipules. C'est toi qui as dit. Tu es obligé de voir l'Espagne. Alors que moi, je parle simplement. Je n'ai pas parlé de victoire.
T'es déjà totalement enflammé.
Je te dis que Luis Enrique a montré et qu'il est capable de faire évoluer le jeu de l'Espagne. Je ne parle pas de victoire. C'est toi qui dis que l'Espagne. Tu fais de l'Espagne ton favori pour l'Euro. Je n'ai jamais prononcé ces mots. Je dis que le jeu de l'Espagne va évoluer avec Luis Enrique puisqu'il l'a fait avec le Barça. Et on a déjà vu un bel aperçu ce samedi à Wembley. Je pense que vous avez vu
ce match. On peut suivre, Fred.
Oui. Ouais. Et Luis Enrique, parce que moi je pense que Luis Enrique, regardez, beaucoup de gens ont oublié qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça. Sincèrement.
Non, moi j'ai pas oublié.
Fred, on rappelle que Luis Enrique, c'est l'entraîneur de l'histoire du Barça qui a le plus gros pourcentage de victoires. Il a quoi, 9 titres en 3 saisons. Enfin, on se souvient quand même de Luis Enrique et de la trace qu'il a laissée au Barça.
Mais sauf que c'est tellement mal fini avec certains joueurs que voilà, il a marqué l'histoire, mais il a pas d'un point de vue comptable. Mais les gens ont oublié qu'il a fait évoluer le jeu et qu'il a été très utile.
Avec qui ça s'est terminé?
Il parlait pas avec Messi, avec Messi. Jordi Alba.
Mais tu sais quoi, il aura pas Messi en sélection et ce sera tant mieux. Parce que c'est compliqué apparemment de gérer ce Messi, donc, légèrement. Mais non, donc, sur lui d'être aussi performant sans j'ai pas envie de dire une brebis galeuse, parce que c'est quand même Messi et ça t'apporte sur le terrain, mais en dehors c'est pas évident à gérer un Messi, là il l'aura pas.
J'aimerais bien savoir d'où vient l'expression en eau de boudin que s'apprêtait à utiliser Pierre Ducrot, donc je vais faire une petite recherche.
Alors maintenant on rebondit sur les expressions qu'on s'apprête à dire mais qu'on dit pas, parce qu'on
c'était la bonne quand même.
L'after c'est aussi ça, tu vois, c'est essayer d'expliquer l'étymologie des mots.
Mais je ne l'ai pas dit l'expression d'ailleurs, parce que je savais pas que je mettais les pieds dans l'eau.
Mais non, parce que le boudin, ça se sointe.
Tu mets le boudin dans l'eau.
Mais bien sûr, tu peux cuire le
boudin.
Mais
non, en eau de boudin. Mais non, mais quand vous faites cuire un boudin blanc, ça se sointe, il y a de l'eau, c'est ça, c'est de l'eau de boudin.
Non, c'est en nœud de boudin, c'est les nœuds entre les boudins.
Le boudin, si ça se réfère pas plutôt au boudin noir qu'au boudin blanc.
Oui, je pense, mais bon, à voir.
Je pense que c'est plus boudin noir, moi.
Mais c'est dans quelques instants,
l'eau est souillée après par le boudin noir.
Nous irons en Angleterre. On va poursuivre ce tour du monde de l'after, ce tour du monde de l'after. Et puis, Simone Rovera est en train d'analyser la défaite de l'Italie de ce soir 1-0 face au Portugal.
Il y a presque 5 ans de sélectionneur allemand.
Mais rappelons que l'Italie a été championne du monde de beach soccer un jour.
Non, l'euro.
L'euro de beach soccer.
Il reste un beau jour pour le foot italien. Life is a beach. Allez, à tout de suite pour la suite de l'after. Compagnie de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, David Lortolari également est là, nos drôles de names sont là, Simone Rovera, Fred Hermel également. Et avant de partir en Angleterre, explication, on vous l'avait promis juste avant de partir en pause, Daniel Riolo, d'où vient l'expression en eau de boudin?
Non, c'est finir en eau de boudin. L'eau de boudin, c'est simplement l'eau de cuisson des boudins.
Mais c'est ce que j'avais
dit. C'est-à-dire le résidu ultime de l'accommodation du porc. Ce cochon dans lequel tout est bon, sauf justement cette eau de boudin, seul élément négligeable que l'on ne consomme pas et qu'on le jette même parfois au pourceau.
Voilà. Ah, j'aurais pu aller au bout de mon expression.
Ouais, t'aurais pu dire tout ça.
Vous avez remarqué que je vous avais expliqué quand même. Moi, je l'ai expliqué de manière beaucoup plus claire avant la pub.
Bah, comme
pour bah, j'ai expliqué que c'était l'eau de boudin. Quand tu fais cuire le boudin, ça coule et bah là. Et ça se mange
moins.
Tu l'as dit, quoi.
Mais oui, je l'ai dit.
La synthèse. Messieurs, Philippe Auclair n'est pas là ce soir.
Ah, mais c'est chez toi en plus, chez les ch'tis, on mange pas du boudin au petit-déj là-bas?
Ah non, du maroilles, mais c'est que dans le film. Moi, je connais personne qui mange du maroilles au petit-déj. Non, du boudin, non.
Oh, je suis sûr que ça existe, hein.
Non.
Ah, si,
on mange pas du boudin au petit-déj.
Non, pas du boudin.
Vous avez jamais fait des marchés ou quoi, les gars?
Des tranches de pain avec de la terrine, du pâté dessus, etc.
Oui, ça oui.
Mais oui, bien sûr,
mais
que si,
boudin.
Mais
non, mais c'est pas du tout une spécialité.
Depuis 5 heures, le petit-déj à 8 heures, t'as l'impression que c'est le déj.
Ça reste le petit-déj, t'as pas mangé.
Mais non, mais Simone, c'est à Naples qu'on mange du boudin au petit-déj.
Du boudin noir?
Tu sais pas, le boudin. Le boudin au petit-déj, à Naples.
C'est le déj?
Oui, non, au petit-déj.
Simone, qui le mange le soir.
C'est l'une des spécialités de Cologne.
Je dirais pas.
Quoi?
Avec
de l'eau de fruits. Oh, la fameuse eau de Cologne, d'ailleurs.
Non. Finir en nœud d'eau de Cologne. Oh, finalement, on en bouffe partout du boudin au petit-déj.
Oh, le bordel, cette émission.
En Italie, en Cologne.
Les gars, s'il vous plaît. Philippe Auclair n'est pas là ce soir.
Comme on dit dans la télé, j'ai un problème pour entendre Fred Hermel. Peut-être que l'oreillette
ne fonctionne pas.
Je ne sais pas.
Ah, il est 3-4, tu m'entends là?
Non, oui.
Il va t'entendre, t'inquiète.
On va quand même filer à Londres et on va accueillir, messieurs, s'il vous plaît, on va accueillir Julien Laurence qui est en direct avec nous de Londres. Bonsoir Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Alors là, déjà que j'avais du mal à entendre Fred Hermel, mais alors Julien Laurence pour sa première, je vais te dire.
Tiens, on va augmenter un
tout
peu.
Tout de suite, tu te mets à l'aise, Daniel, tu vois.
Ça va aller.
Ah, je mets à l'aise si je l'entends pas.
Bon, alors Julien, tu vas nous parler de l'Angleterre ce soir. Présente-toi avant quand même. Qu'est-ce que t'es? T'habites où? Nom, prénom, âge, profession?
Ouais, j'habite à Londres. J'ai 38 ans et ça fait 14 ans que je suis ici pour suivre la première ligue, les joueurs français ici, pour le Parisien notamment, pour d'autres radios avant. Et aussi pour les médias anglais comme BT Sport, comme ESPN et tout ça.
Bon, t'es un club de prédilection en Angleterre ou pas?
Ah, je suis arrivé en 2004, en janvier 2004, quand les invincibles d'Arsenal
dominaient,
écrasaient tout le monde. Voilà, donc j'ai forcément, j'ai un petit côté gagnant.
Alors, t'es pas là pour parler des Gunners ni de la Première Ligue. Ce soir, Julien, l'Angleterre s'est inclinée face à l'Espagne 2-1. Les Three Lions qui ont enchaîné 3 défaites en 3 matchs. Demain, l'Angleterre affronte la Suisse. Ce sera un match amical. Ça comptera pas pour la Ligue des Nations. Mais alors, pour toi, Julien, l'Angleterre de Southgate, qui a pourtant été 4e lors du dernier mondial, elle ne montre rien. Et pour toi, Southgate est carrément surcoté.
Voilà, c'est ça. Franchement, pour moi... À l'heure actuelle, il est plus près d'une escroquerie que d'une bonne affaire. Alors c'est vrai qu'il porte plutôt bien. Il a son costume 3 pièces, il parle bien, il est poli, il est intelligent, les gens l'aiment bien, les gens le respectent. Mais sur le terrain, j'ai pas vu grand-chose. Alors effectivement, il y a cette Coupe du Monde où ils finissent 4e, où ils ont quand même la partie de tableau la plus facile, parce qu'au final, ils battent quand même la Tunisie difficilement, le Panama, la Suède, et puis c'est tout. Hein. La Colombie, c'est au tir au but, mais ça fait quand même match nul à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. Pour le reste, c'est effectivement des coups de pied arrêtés. Là, c'est sûr, ils sont très bons sur les coups de pied arrêtés, mais ils ont un peu ça dans leur gène, les Anglais. Mais pour le reste, tactiquement, j'ai rien vu de la part de Southgate. Même lui a reconnu, après la défaite contre l'Espagne, qu'il cherchait encore la meilleure formule. Ça fait quand même deux ans qu'il est là. Et puis tu l'as dit, hein, trois défaites de suite, ça leur était plus arrivé depuis 30 ans. Et puis s'il y avait une quatrième défaite demain contre la Suisse à Leicester, donc un match amical, certes, mais quand même une quatrième défaite, ce serait la première fois dans toute leur histoire, 146 ans, où ils perdraient quatre matchs d'affilée. Et ben pour moi, ça montrerait à quel point Southgate n'est vraiment pas l'homme de la situation.
Mais est-ce qu'au-delà des résultats, il a pas apporté un truc quand même, Southgate ? Je sais pas, dans
il a juste permis à ce qu'on parle de l'Angleterre de façon positive, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, en les faisant avancer dans une compétition.
Ils ont fait quatrième quand même.
De ce point de vue-là, il a permis en tout cas aux supporters de l'équipe d'Angleterre de se dire, tiens, notre équipe elle est pas ridicule alors qu'on partait sans le moindre espoir. On est allé un peu loin dans la compète, on n'était plus habitué à ça. Depuis 1990, on l'avait pas fait. Donc ça oui. Après, je peux entendre les arguments de Julien, mais sur le jeu, oui. Donc malheureusement, quand moi je dis ça, de l'équipe de France sur le jeu et sur le côté tactique, à quoi ça se joue finalement? Au fait que tu gagnes au final, on en revient tout le temps à la même chose finalement. Est-ce que l'important c'est de savoir ce que tu as fait, comment tu as joué ou quel était ton résultat? Comment tes confrères en Angleterre réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont aussi sévères que toi ou pas, les Anglais?
Et ils sont de plus en plus maintenant, parce que tu réalises aussi que bon, le match contre l'Espagne, par exemple, t'es revenu un peu sur terre. Hein. T'as vu qu'il y avait quand même un gros écart entre toi et les meilleurs, même si l'Espagne n'a pas fait une bonne Coupe du Monde. Mais entre toi et la Croatie, entre toi et la Belgique, entre toi et l'Espagne, ça commence à faire beaucoup. Alors c'est vrai que si t'es peut-être au niveau de la Suède finalement, au niveau de la Tunisie, au niveau du Panama, voilà, au niveau de la Colombie.
Alors, au niveau de la Tunisie, du Panama, t'exagères.
Au niveau de l'Italie.
Non mais Julien, c'est vrai que t'es pas au niveau de la Tunisie et du Panama vu que tu les as battus finalement au mondial.
Oui, mais t'as battu la Tunisie difficilement. Tu vois, t'as par exemple, prends l'exemple de Harry Kane. Harry Kane, c'est un des meilleurs avant-centres du monde. Je pense que à ce niveau-là, on peut pas, y a pas de débat. Comment c'est possible que Harry Kane n'ait aucun tir cadré contre l'Espagne samedi, aucun tir cadré en demi-finale?
Il a pas eu de ballon non plus. Hein.
C'est ce qu'il veut dire, Fred, j'imagine.
Tactiquement, il a jamais trouvé la bonne formule pour mettre Harry Kane dans les bonnes dispositions.
Certainement. Oui, effectivement.
Moi, Julien, ce qui m'a surpris, parce que bien entendu, j'ai suivi ce match avec attention et j'ai même commenté à l'antenne. Moi, ce qui m'a déçu, ce qui était flagrant. Quand tu vois le milieu de terrain de l'Espagne et que tu vois le milieu de terrain d'Angleterre, t'as l'impression que c'est pas le même sport. C'est-à-dire que le manque de créativité au milieu de terrain, mais c'est criant du côté anglais quand même. Il y a pas d'autres joueurs que ça ?
Non, mais là c'est vrai. Et ça c'est pas la faute.
En douce.
Non, mais c'est pas la faute de Southgate.
Tout doucement.
Ça c'est pas la faute de Southgate. C'est pas la faute de Southgate non plus. Il a un réservoir de joueurs à disposition beaucoup moins important que Luis Enrique avec l'Espagne ou que Didier Deschamps avec la France, par exemple. Pas si sûr. Et notamment au niveau de ce joueur créatif qu'ils ont, le dernier c'est Paul Gascon. Depuis, ils ont personne comme ça. Je pense qu'ils espèrent beaucoup de Dele Alli, qui a un profil un peu différent, mais qui peut-être pourrait avoir ce côté très créatif qui leur manque vraiment.
Qui sera absent demain. Il est blessé. Il est retourné à
Tottenham.
Voilà.
Qui sera absent demain. Et puis qui est décevant en équipe d'Espagne. Hein. Ça fait en équipe d'Angleterre. Pardon. C'est 3 buts en 31 sélections. Peu de passes décisives aussi. Voilà, il leur manque un joueur comme Thiago Alcantara. Par exemple, tous les Anglais se sont extasiés sur le match de Thiago Alcantara samedi, ce qui était vrai, en disant il nous faut un Thiago Alcantara, il faut quelqu'un qui puisse contrôler le match, comme ça, mettre le pied sur le ballon quand il faut, accélérer quand il faut. C'est vrai que ça, ils ont beaucoup de mal. On l'a vu avec Henderson, par exemple, qui est pas du tout à ce niveau-là.
Mais alors, je suis quand même très intéressé par cet avis. Parce que quand je repense à tout ce qui a été dit pendant la Coupe du Monde, l'Angleterre est bien allée plus loin que l'Espagne à la Coupe du Monde, non ?
L'Espagne a été.
Non, mais moi je m'adresse à tous les tenants du il n'y a que le résultat qui compte. Donc l'Angleterre est plus forte que l'Espagne. C'est quand même pas un match de Ligue des Nations en bois
début
septembre. Laissez-moi finir. Ça n'est pas un match en bois d'une Ligue des Nations dont tout le monde se fout début septembre alors que les mecs sont pas au sommet qui a inversé la tendance, si ou non ?
Bah si, puisque l'Espagne a gagné.
Je suis ironique.
Bah oui, on a compris.
Je suis ironique. Non mais je sais pas. l'Angleterre est plus forte que l'Espagne, oui ou non? L'Angleterre est allée plus loin dans une grande compétition que l'Espagne?
Bien sûr que non, qu'elle est pas plus forte que l'Espagne.
Je te réponds.
Ah ben, je sais pas, moi, il paraît qu'il y a que ça qui compte. Il y a que ça qui compte. Comment ça, c'est une provocation? Vous me faites chier toute l'année avec ça! Vous me faites chier toute l'année avec ça!
Ouais, mais ils ont pas gagné.
L'Angleterre, c'est plus gagne. T'as pas compris ça? Il y a un seul qui gagne. Les autres ont perdu.
Mais arrête!
Il y a un seul qui gagne. Les autres ont perdu. Ils sont tous perdus. Il y a 21 qui ont perdu.
Non, oui. Tu as un faux cul quand je dis. Tu as un faux cul quand je dis. Qu'on n'en a rien à cirer d'arriver en finale, en demi, en quart ou en huitième, que l'important c'est ce que tu montres, c'est de s'adonner, vous me tombez tous dessus. Ah, donc, tombez tous sur la gueule, taisez-vous, tombez tous, taisez-vous, taisez-vous, tombez tous sur la gueule de Julien Laurence et dites-lui, l'Angleterre est plus forte que l'Espagne. Merci.
Alors, voilà, moi, si je peux répondre quelque chose à Daniel.
Allez appeler Jérôme Rotten, qui vient ici. Et qui dit c'est Julien Laurence.
Il se retrouve, Jérôme, il a fait foutissime avant.
Tout le monde, vous tous, là.
Alors, est-ce que je peux te répondre?
C'est le résultat qui est le plus important. Pierre, il faut que l'Angleterre, c'est plus fort que l'Espagne. Et c'est pas un match en boîte début septembre qui va changer.
Pierre.
Tu as raison,
Pierre Ducrot.
Bon, alors.
Effectivement. Mais dis-le, putain! Voilà, comme dirait Daniel.
On s'en fout de ce match, effectivement, t'as raison. Non, le problème, c'est qu'on t'a jamais dit qu'une équipe qui va plus loin dans une compétition est forcément.
Vous rigolez ou quoi?
Laisse-moi finir ma phrase.
Daniel, on va te couper.
On ne t'a jamais dit qu'une équipe qui allait plus loin dans une compétition était forcément plus forte qu'une équipe qui a été éliminée avant. On t'a pas dit ça. On t'a jamais, en tout cas, moi, je ne t'ai jamais dit ça, Daniel.
Vous dites que le plus important, c'est d'avancer.
Oui, mais justement, quand
vous dites que c'est mieux d'aller en finale. Et moi, je disais tout le temps, si tu gagnes avec un jeu de merde, mais vraiment si tu gagnes tout au bout de la coupe, je dis, ok, j'accepte.
Et ben, c'est ce qu'on dit aussi.
Non! Vous disiez pas ça.
Est-ce que je peux dire ça? Je dis aller au bout de mon jeu de merde,
Daniel,
et tu répétais
l'énième fois. Moi, Pierre Ducrot, je l'intercepte, je l'interpelle. Pierre Ducrot me disait.
Interception de Daniel Riolo.
Voilà. Bien joué, ça.
Je te disais donc, si tu vas tout au bout, d'accord, mais sinon, pourquoi aller en finale, en demi-machin, si tu t'es fait chier?
Donc, alors, je vais te dire une énième fois que je t'ai toujours dit que quand tu étais acteur, c'était complètement différent. Tu m'as toujours entendu dire ça, que quand tu étais joueur.
Donc, le coach, joueur anglais aujourd'hui, Anderson, là, qui soi-disant, pour Julien, les pieds carrés, par rapport à Thiago Alcantara, qui est une vedette, Anderson, il se dit, je suis plus fort que Thiago Alcantara.
Non, Anderson, il se dit, Anderson, il se dit pas ça. Anderson, il se dit, j'ai mieux réussi ma Coupe du Monde. Que je sais pas de qui vous parlez.
Mais il a réussi mon cul.
Mais il a réussi son cul mieux que le cul d'Alcantara.
Arrête.
Il se dit ça.
Mais c'est bien la preuve que c'est du pipo, votre raisonnement.
Mais non, pas du tout.
Mais pourquoi tu dis votre?
Parce que moi je suis d'accord avec Julien.
Pourquoi tu dis votre? Tu parles à lui là.
Mais parce que vous êtes d'accord avec lui. Parce que la majorité dans le foot en France pense la même chose que lui.
Mais c'est qui vous?
Bah ceux qui ont un avis différent du sien.
Voilà.
Ouais, mais c'est qui? C'est nous.
Bah toi aussi,
toi aussi avec ton équipe là.
Mais je te l'ai dit. Mais qu'est-ce que je t'ai dit en 2016? Je t'ai dit s'ils vont au bout et qu'ils gagnent, ok. Mais s'il a gagné, il gagne pas l'euro, il aura tort. C'est tout ce que j'ai dit. C'est toujours ce que j'ai dit.
Ah oui, mais il est quand même allé en finale.
Mais je te dis pas de la finale, moi.
Sauf que Daniel, tu vas être d'accord avec moi pour dire que l'Angleterre a mieux réussi sa Coupe du Monde que l'Espagne.
Non.
Ah bon, bah alors là, effectivement, on n'est pas d'accord. Ah bah moi je trouve le parcours des Anglais en Coupe du Monde beaucoup plus intéressant que celui des Espagnols quand même.
Mais alors du coup là tu vas dans le sens de ce qu'il dit.
Non, parce qu'ils sont allés.
Je remets une pièce.
On est d'accord que tu disais que l'Angleterre avait mal joué, n'était pas intéressante à avoir joué en Coupe du Monde.
Mais le point positif pour l'Angleterre.
Je vais pas dans le sens de Daniel. J'essaie de lui faire dire que le parcours de l'Angleterre a été plus intéressant que celui de l'Espagne alors qu'ils ont pas été intéressants à avoir joué.
Le point positif, et je sais pas si c'est ça que tu entends pas intéressant, et c'est ce que je disais à Philippe pendant la Coupe du Monde, on en a parlé souvent.
C'est ce que tu vis quand tu joues.
Pour le peuple anglais, dans par ce contexte-là, d'une équipe qui n'est pas allée en demi depuis 90, effectivement, ça a remis un petit peu de bon cœur.
Bien sûr, ça
a rassemblé des gens dans les pubs et tout. Donc, oui, pour le côté, c'est pour ça que je dis que le football des équipes nationales, c'est un football d'émotion. C'est pas un football de jeu, de tactique, de
machin. D'accord.
Donc, oui, c'est important. Mais au fond, pour ce qui est de la réussite sportive et des promesses que ça donne pour l'avenir, je vois pas encore l'Angleterre. Je vois pas encore l'Angleterre est plus avancée que l'Espagne, qui avec son jeu certainement stéréotypé, ne s'est gagné en péno contre une Russie qui a mis deux fois le nez à la fenêtre en deux heures et qui a pratiqué un football de rue.
Mais ce qui était ce qui est différent,
et
de dire
intéressant.
Mais là c'est deux idées différentes. Alors
Julien Laurence, merci beaucoup d'avoir foutu le bordel. C'était bien, non? Voilà.
Ah ouais, c'était cool. Voilà.
Ah, il a pris du plaisir. Putain, mais je suis où? Sans déconner. Salut, Julien, bonne nuit à toi.
Salut, Julien.
Ciao,
salut,
merci.
Salut.
Dans quelques
et
instants.
Comme, attends, et comme il va y avoir 1000 questions sur Twitter, comme il va y avoir 1000 questions sur Twitter, qui vont être en lien évidemment avec Philippe Auclair et que je maintiens que nous, nous ne cachons jamais rien, Gilbert en parlera demain soir.
Voilà, voilà, teasing, voilà, teasing. Voilà, ce sera voilà, donc
comme ça, ça évite le flow mais, sur Twitter.
Ça dit, il en a déjà un peu parlé ce week-end sur les réseaux sociaux. Voilà, mais, Gilbert était très dispo ce week-end là-dessus.
Il est dispo, Gilbert, et il sera encore plus dispo demain parce que il sera là et quand sa présence, on dira.
Voilà, le boss sera là, le toit voilà. Compris. Oh, dans quelques instants, la vie tranchée de Simone Rovera.
Hein, l'after demain.
On va tous écouter comme d'habitude. Simone Rovera.
Est-ce que Fred Armel pourrait parler parce que maintenant l'oreillette marche, donc si maintenant je peux entendre.
T'es là, Bruno?
Tu répètes toujours le même truc, Daniel.
Mais non, mais c'est vrai, il avait pas l'oreillette pour le coup.
Tu m'entends là?
Ouais, maman, ah ouais. Oui.
Ah, ça va.
Allez, à tout de suite.
C'est vachement bien.
Accompagné de Pierre Ducrot, Daniel Riolo et le drôle de Damson, là. Fred Hermel est toujours avec nous, David Lortolari. On va évoquer l'Allemagne dans quelques instants. Et donc, Simone Rovera, c'est l'un des résultats de cette soirée. Ligue des Nations, deuxième match pour l'Italie qui avait fait match nul un partout face à la Pologne. Premier match dans cette Ligue des Nations pour le Portugal qui a battu l'Italien 1-0 ce soir. André Silva, seul buteur de ce match. Simone Rovera et la vita tranciato.
Ma Philippe, mais il y a même un carton rouge qui est énorme. Mais comment tu peux dire que c'est des conneries?
Mais
c'est
énorme, mais à ce moment-là,
tu te moques de moi, tu te moques de l'Italie, tu te moques de supporter de la Roma. Mais arrête avec tes conneries. Ça ferme la ligne.
Donc tu sais t'énerver.
Ouais.
Alors Simone, oui. tu voulais revenir hein, ce soir, ah, bien oui. Entendu, sur ce match entre le Portugal et l'Italie.
Face à la plus grande équipe du monde, avec les plus grands joueurs du monde.
Il n'y avait pas Ronaldo, on le rappelle.
Hein. Le pauvre, il ne lui reste plus que l'ironie. C'est dire, quand on est là, c'est que
il s'oriolise.
Alors, mon avis tranché, c'est très simple. On parle de Ligue des Nations, de Serie A, Serie B, Ligue 1, Ligue B. Et l'Italie, aujourd'hui, c'est en Serie B. C'est très simple, c'est efficace, mais on le savait déjà, peut-être, parce que on s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. On a raconté plein d'histoires. Oui, bon, mais c'était match des barrages. Oui, on est tombé face à l'Espagne dans les groupes. Tout est vrai. La vérité plus importante, quand même, et on l'a vu encore ce soir, c'est aussi, on l'a vu quand Mancini a fait sa liste des 31 joueurs. Si on regarde bien la liste, il n'y a pas des joueurs de qualité, il n'y a pas des grands joueurs. Même des petites nations, des joueurs moins importants, des nations moins importantes, ont des grands joueurs, ont des joueurs extraordinaires. Je pense à Gareth Bale, je pense à Denmark avec Eriksen. Nous, on les a pas. Et quand Mancini fait 9 changements sur les 11 titulaires qui ont joué face à la Pologne, pour essayer de mobiliser un peu certains joueurs, pour peut-être encore changer un peu les têtes, les esprits de notre groupe, nous, on n'a pas ni une équipe titulaire de haut niveau, ni des remplaçants de haut niveau. Moi, je veux parler aussi ce soir d'Emmanuel Lazare, qui c'est un joueur très très bon pour son niveau, qui a joué à la SPAL. Et aujourd'hui, les joueurs sur les 3 dernières saisons, entre la saison 2016-2017, où il était meilleur défenseur droit de la Serie B italienne, mais c'est les défenseurs droits qui a plus de continuité sur à ces postes. Parce que Florenzi est un fois blessé, l'autre oui, l'autre aussi. T'as Deschiglio qui peut jouer à droite, à gauche, mais quand même il est souvent blessé. T'as plein des joueurs qui ne sont pas au niveau. Zappacos est à 0 minute. Il a été titulaire face à la Pologne. Il est à 0 minute avec Chelsea cette saison. Et ce soir, en fin de match, il est à la rentrée en jeu d'Emerson Palmieri. 0 minute aussi cette saison avec Chelsea. 9 matchs sur les 13 derniers mois. Donc, si ça, c'est les mieux qu'offre l'Italie aujourd'hui, on peut aller où? En deuxième division. C'est pas grave. On repartira de ça.
Rappelons que dans la liste des 31, il y avait Mario Balotelli, alors qu'il a été critiqué par Mancini après le match face à la Pologne, et il l'a dégagé dans sa liste des 23 au final.
En théorie, il est aussi sorti sur une petite blessure. On sait pas bien encore quel niveau est la blessure. On verra s'il jouera, ce week-end avec Nice. Ouais. Aujourd'hui, on a 3 attaquants des plus ou moins bons niveaux, qui sont Balotelli, Immobile, Belotti. Aucune, un grand star. On part des nations qui ont des choix importants à faire en attaque. Nous, on a toujours des choix par défaut. Moi, je sauve quelques joueurs, même ce soir. Je sauve Donnarumma, qui a fait quand même des bons arrêts. Je sauve Federico Chiesa, qui est une des stars de la Fiorentina. Il faut oublier un peu la période Del Piero, Totti et Christian Vieri, et tous les grands champions qu'on a eu. On les a pas. Mancini est en train de faire un travail difficile parce qu'il doit relancer les footballs italiens. Mais le problème est très simple. Si tu as 4,95€, tu vas pas acheter des lomards, du champagne. Il y a un menu chez McDo à 4,95€. Si tu veux manger
une sandwich et une coca, tu dois aller chez McDo. Et c'est pas la bouffe meilleure du monde. Mais c'est la seule que tu peux acheter avec cette QR. Aujourd'hui, l'Italie vaut un menu 4,95€ de McDonald's.
Je suis désolé, tu peux avoir un grec aussi à ce prix-là.
Bah, les lendemains, tu as mal au ventre
ouais,
quand même.
Bon, c'est un ouais, mais t'as quand même un choix à faire. Il y a des choix.
C'est vrai, il y a match.
Oui, donc tu peux appeler un joueur de la Spal, ou trois joueurs de Torino, un joueur de Cagliari, comme c'est la sélection aujourd'hui. Alors, ouais, ouais. Ou des joueurs de Chelsea.
On le voit bien avec l'équipe alignée.
Ou Manchester United qui n'y joue pas. Donc, les choix sont ça. Aujourd'hui, incroyable, mais c'est pas pour ça qu'on a perdu. Pour la première fois depuis Italie-Cameroun de 98, il n'y avait pas des joueurs de la Juve dans l'once titulaire.
Ah. Alors, j'ai
mais vu c'est pas un scandale.
Ce qui sera intéressant, c'est rigolo, c'est pourquoi, rigolo, parce que, c'est rigolo parce que j'ai vu cette stat passer, mais elle est pas juste parce que ce jour-là, l'Italie avait fait un très gros match, elle avait gagné 3-0. Ouais. Voilà, je crois même que c'est Christian Vieri qui doit mettre un triplé ce jour-là.
Je pense en doublé.
Bon, au moins deux buts de Christian Vieri ce jour-là. Et
non mais c'est une statistique
l'Italie,
pour dire.
L'Italie avait fait un gros match. Alors évidemment,
est-ce qu'avec Bonucci, tout le monde connaît. Mieux,
en Italie, tout le monde connaît le dicton quand la Juve va, l'équipe nationale va. Encore faut-il qu'il y ait des joueurs de la Juve dedans. Bon, là, comme tu dis, il y en a pas. Malgré tout. Alors oui, il y a un trou en Italie, c'est clair, net.
C'est un constat. Ouais,
le problème, je me demande s'il est pas aussi un petit peu ailleurs dans les dirigeants, dans ce qu'est le foot et par qui il est géré. Parce que les espoirs ont été bons lors du dernier Euro,
ou
battu par l'Espagne,
demi-finale,
au terme d'un match que les Espagnols avaient vraiment dominé avec des super joueurs et tout, mais l'Italie avait pas été ridicule.
Oui.
Dans cette équipe-là, t'avais des mecs comme Bernardeschi,
ouais,
qui est devenu titulaire à la Juve et qui est un bon joueur.
Il était titulaire face à la Pologne.
Alors, tu as un bon gardien, parce que Donnarumma, je pense, va devenir un bon gardien.
Oui.
Tu as une charnière certes âgée, 34 ans, 31 ans possible à monter, c'est Chiellini Bonucci, qui existe encore. Alors, peut-être pas jusqu'à l'Euro pour Chiellini, mais en tout cas, là, pour l'immédiat, pour ne pas être aussi ridicule que ce soir, même si là, il avait tout changé dans l'équipe.
Des jeunes.
Je parle du potentiel possible. Sur les côtés, Deschilio, là, il est...
T'as Florenzi qui est blessé.
Oui, mais à un moment ou à un autre, tu dois quand même en avoir, que ce soit Florenzi, que ce soit celui de la Juve, à un moment, tu vas bien en trouver un sur pied. Jorginho, le mec, il va être titulaire à Chelsea.
Titulaire,
ça doit quand même pas être un bidon. Bon, Verratti, à un moment, il va bien revenir. Soit il y arrive, soit il n'y arrive pas. C'est quand même un mec qui joue la Ligue des Champions régulièrement. C'est un bon joueur de foot.
Il est pas
le
là,
petit
mais
Monaco,
combien, il est plus là.
C'est vrai qu'il est tout jeune. Il faut encore voir ce qu'il va donner. Insigne, ça reste quand même un attaquant potable.
Oui, qui est en sélection, tu sais très bien, qui n'arrive déjà à supporter les poids de ce maillot. Mancini était les mêmes à l'époque. Hein. Il n'était pas capable de faire trois bons matchs d'affilée en sélection.
Je pense que c'est parce qu'il y avait une autre concurrence.
Et lui, titulaire tout le temps.
À l'époque de Mancini, c'était l'époque où Menzo, là, finalement, a jamais eu vraiment sa place.
Et même Signore, il ne jouait pas, t'imagines.
Voilà, il y avait Pepe Signore, et non plus. Bon, je pense qu'il doit y avoir matière à monter une équipe. On a vu des équipes à la Coupe du Monde, l'équipe russe, même si tu vas par là, l'équipe d'Iran.
Oui, mais c'est pas les mêmes adversaires non plus. Enfin, après, tout est relatif,
non,
Daniel.
Je te parle de ce qu'il montrait sur le terrain.
D'accord.
En tant qu'équipe, bloc.
Après, l'Iran, en termes de jeu, c'était pas.
Après, tu fais le choix que tu veux. Si tu considères que t'as pas de bons joueurs, bon, ben monte l'équipe autrement. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme équipe? Je sais pas. Même le Mexique. Il y a pas des stars fantastiques. Ce qu'elles arrivaient à faire, d'un point de vue
pressing. Ouais, mais il y a des bons joueurs quand même au Mexique.
Bon, voilà. Je te signale que Conte à l'Euro 2016.
Il t'entend pas, Fred.
J'y suis d'accord.
Avec une attaque composée de l'autre grand gaillard, maladroit. Comment il s'appelait?
Eder et Pelé. Mais moi, j'ai dit souvent.
Plus, Zaza qui était encore là ce soir et tout. Putain, on n'était pas avec des cadors, quand même,
Mais c'était une équipe pas qualitative. À niveau des qualités, c'était pas extraordinaire. Peut-être c'était déjà.
Alors ok, il jouait avec les trois derrière plus Buffon, Barzagli.
Tu partais avec une base défensive extraordinaire.
Oui, mais c'est au niveau de l'intensité du pressing. Ils avaient fait un autre choix de jeu.
Allez, faut qu'on passe à l'Allemagne.
Bien sûr.
Il doit y avoir mieux à faire que ça. Qu'essayer de rappeler Balotelli, qu'il faut mettre à la cave définitivement et oublier totalement. Surtout avec son agent.
Bah là,
je ne veux même plus parler tellement.
Il y a
eu une polémique ce week-end. Sans Raiola qui s'en prend à Arrigo Sacchi, je veux dire, mais c'est
Sacchi a dit que
franchement, mais
qu'il faut avoir l'intelligence et pas seulement les pieds. Et Raiola a dit que c'est Sasaki qui est pas intelligent, bref.
Donc, ah, voilà. Voilà.
Bon. Non, mais il y a des mecs indécents.
Juste, on rappelle, alors, victoire du Portugal 1-0. Cristiano Ronaldo était pas là, puisqu'il avait demandé à être dispensé de la sélection. Et alors, Fred, il y a pas un tweet, là, qui est parti d'un joueur du Real à l'encontre de Ronaldo, là?
Bah oui, parce que finalement, ça avait l'air très rigolo, mais quand tu regardes bien, c'est une belle petite pique. Parce que Cristiano Ronaldo a montré une photo, comme d'habitude, à moitié nu sur un bateau, et il marque vitamine D. Parce que le soleil, c'est la vitamine D. Et aujourd'hui, Lucas Vazquez, qui était son coéquipier au Real, fait le même genre de photo avec sa femme et son enfant. Vitamine F comme famille. Grosse pique. Vraiment, c'est un truc impensable il y a 2 mois de se moquer comme ça de Cristiano. Ce qui explique un petit peu ce que je vous disais l'autre jour, que dans le vestiaire du Real, Cristiano n'a plus... Cristiano, il aime bien la vitamine D. Donc voilà. Non, mais en fait, ce qui compte là-dedans, c'est la pique de Lucas Vazquez contre Cristiano Ronaldo, qui est assez révélatrice, je pense, de ce que je vous racontais la semaine dernière, que dans le vestiaire du Real, la tête de Cristiano, elle ne plaît plus beaucoup.
Et ben, on passe à la vitamine A, comme Allemagne. Putain, je suis bon là.
Jingle, alors. Timo Werner. David,
je vous propose de regarder la Coupe du Monde. Chapeau 1.
Regardez les matchs, messieurs.
Non,
t'es fou. En fait,
si, je t'assure.
Contre l'équipe de France, il était très très bon.
Vous savez
ce qui est formidable dans cette phrase? Moi, j'adore analyser les phrases. Cette phrase est inutilisable si l'inverse.
C'est-à-dire
regarder la Coupe du Monde.
Ce qui est formidable, c'est regarder la Coupe du Monde, messieurs dames. Chapeau 1. C'est parce qu'elle est dans ce sens que ça fait un jingle d'enfer. Je vous promets. Vous la mettez dans l'autre sens, ça fait pas la même chose.
Comment ça,
c'est ça qui est génial.
Dans l'autre sens, tu veux dire.
Il dit, je pense que Werner est chapeau 1, regardez la Coupe du Monde.
Ouais.
C'est pas pareil. Le fait qu'ils le disent comme ça, c'est une punchline, des phrases, dialogues dans les films, souvent ça vient de comment c'est dit.
Ah bah oui, c'est sûr.
Plus parfois que le fond. T'es d'accord, alors, Fred, ou pas? Fred, tu peux dire si t'es d'accord avec moi, j'aimerais bien.
Ben non.
Il n'est plus là.
en fait, j'ai pas compris ta.
Bon, c'est pas grave, parce qu'on a plus beaucoup de temps.
Mais je te promets.
Les gars, c'est que 9 fois sur 10, il est pas d'accord avec toi. Non, pas en même temps, les gars. On va écouter David. Il reste 5 minutes seulement. L'Allemagne qui avait fait match nul 0-0 face à la France jeudi. C'est imposé hier en amical 2-1 face au Pérou. Ça a pas été simple. Ils ont été menés à un moment. Et toi, mon Lorto, t'as écrit, alors il l'a écrit, je vous jure que c'est vrai, une lettre ouverte à Joachim Löw.
Exactement. Alors, c'est Daniel qui a teasé magnifiquement hier soir et encore ce soir, mon avis tranché, avec son ironie mordante sur jouer bien et gagner mal ou l'inverse. J'ai envie de, ce soir, de profiter des ondes d'RMC et d'RMC Sport pour faire une petite lettre ouverte à Joachim Löw pour lui demander d'aller au bout de ses idées. Cher Yogi, pitié, poursuis ta quête du beau jeu. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, et même après...
Ça sert?
Tu vas voir.
Non, laisse-le.
Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, quand j'étais ensuite adulte, vous avez les mêmes références que moi, messieurs, et la plupart de nos auditeurs, je pense aussi, mon imaginaire, mon intérêt pour le foot, sont nourris des performances de cette équipe, qui était une équipe nationale athlétique. Sa supériorité, elle était là, et elle était sublimée par quelques pincées de talent. On se rappelle de la finale 82, la finale 86, la finale 90 qui a été gagnée, l'Euro 96 gagné selon la même culture, comme dirait Gilbert Bribois, à la Hans-Peter Briegel.
Allez, mon gars.
Joachim Löw, tu as rangé brillamment ce patrimoine dans les livres d'histoire et tu as puisé dans la société d'aujourd'hui, plus diverse que l'ancienne, pour proposer et pour faire aboutir une décennie de romantisme, de finesse, que moi, personnellement, je tiens à voir prolongée jusqu'à la dernière goutte. Ces idées, Yogi, tu dois mourir avec, le plus tard possible, mais tu dois. Les vents contraires, les vents mauvais, tu connais. Günther Netzer, Overath, Heynckes, Uli Hoeness, Gerd Müller, Kalle Rummenigge, Rudi Völler, Miroslav Klose, tous ces gars-là, tous ces bombardiers qui plantaient inlassablement des centaines de buts, tu les as plus. Tu as réclamé ces derniers jours que la formation en Allemagne insiste sur le poste d'avant-centre. C'est vrai que c'est légendaire là-bas. Et je me fais aucune inquiétude, tu auras un numéro 9 performant en 2026 puisque tu seras toujours là. D'ici là, oublie les campeurs de surface, oublie les colosses aux pieds carrés, oublie s'il te plaît Mario Gomez, oublie ces imitations pâles, les fantômes qu'on voit en Bundesliga et qui n'ont pas le niveau. Oublie Anthony Rüdiger, oublie Matthias Ginter. Allez, ok, tu as mis Joshua Kimmich en numéro 6, si ça peut te rassurer, si ça peut stabiliser ta défense, je cède sur ce point. Pour le reste, s'il te plaît, fais du Yogi. On veut les dribbles de Sané. On veut voir des petits piquets savoureux comme le but qu'on a vu de Brandt contre le Pérou. On veut Gundogan, on veut Havertz, on veut du Gnabry.
C'est ce que le public allemand réclame. Il frémit de plaisir. Hoffenheim, le dernier match, c'était ça. Dès qu'il y avait une petite tentative de quelque chose, il y avait ce public qui frémissait. Et quand ces gamins comme Gnabry caressent le ballon à la Yogi, c'est là que le public est content. Tu es comme nous, tu es drogué au jeu léché. Alors laisse beugler les rageux. C'est vrai qu'en Allemagne, ça commence à crier fort contre la façon de jouer de Joachim Löw. Mais s'il te plaît, ne fais pas dans la demi-mesure. Déroule tes artistes. Mets-nous du panache, renonce à la défensive, c'est pas beau, c'est pas romantique la défensive, c'est pas allemand. Pitié Yogi, mon docteur Follamour, poursuis ta quête du beau jeu.
Voilà, voilà.
Ça, c'est ton avis, ça. Ça, c'est ton avis, ça.
Ouais, parce
ça.
Que les deux derniers matchs.
Bah, pourquoi t'applaudis, toi?
Les deux derniers matchs.
Tu
connais
ta réaction et tu vas dire, mais à quoi ça sert ton beau jeu, là?
Les deux derniers matchs, c'était de la demi-mesure.
Tu t'es fait éliminer de la Coupe du Monde.
Là, pourquoi vous rigolez entre l'autre, là, qui défend tout le temps Mourinho et son jeu pourri, ému, et toi, il y a que la victoire qui compte. Applaudissez pas.
Bah, je suis ému.
Dites-lui qu'il est bien.
Moi, je trouve, j'applaudis la lettre.
Vous taisez tous et moi, j'applaudis David Lorto.
J'applaudis la qualité de la lettre de David.
David Lorto.
Non, mais ne serait-ce que pour la qualité de la lettre.
T'as raison.
Toi, s'il te plaît, tu dis rien.
Il vient de la maîtrise littéraire, moi.
C'est vrai.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est écrite en allemand normalement. Il a traduit sur le pouce.
Lieber Yogi. Non, on sait que s'il fait ça, il va aller dans le mur. Mais à un moment donné, il faut assumer aussi. C'est comme ça qu'il a créé.
Mais il commence vraiment à être inquiété là, Löw.
Lui, pas encore, mais son président, oui. Son directeur sportif, lui, oui aussi. Si tu vas un peu sur les réseaux,
il a toujours été critiqué. Ça s'est calmé juste après le titre mondial.
Et je peux te
mais
dire,
il a toujours été critiqué.
Il y a peut-être un moment où ça peut péter.
Non, mais ce qui est formidable en Allemagne, c'est
que aujourd'hui, ça commence à devenir vraiment sévère.
En plus, c'était pas réellement quand Löw était critiqué en Allemagne, c'était pas forcément sur la qualité du jeu. C'est pas vraiment ça. Là où il était critiqué, c'est que Löw, pour certains. Et en Allemagne, les débats sur le foot et sur le jeu peuvent quand même exister dans un pays qui a autant gagné et dont l'équipe nationale a été un tel emblème pendant des années, des décennies, toujours d'ailleurs, ils ont toujours été là. C'était plus sur le caractère que dégageait l'équipe. Oui. C'était ça le vrai débat. C'était, franchement, vous me permettez d'être très primaire dans l'expression.
Il va falloir que je sois
très schématique et que tout le monde comprenne. C'était en gros un football d'homme de Burn et un football en gros de petite gonzesse. Vraiment, c'était
oh là,
ça.
Tu prends des risques là.
Non, non, c'est pas moi qui le dis. Je caricature à peine la pensée qui était développée en Allemagne sur en gros Joachim Löw derrière son football de petits mecs léchés, les Marco Reus, Götze, Draxler, toute cette nouvelle génération. Et en gros, on opposait le football de Effenberg, de
ces mecs-là. Forster.
Voilà. Et en gros, que de temps en temps, le foot allemand, la tradition, c'était aussi d'y aller dans le contact et en gros de montrer que on avait le supplément Burn. Voilà. Et c'était ça le débat. Non, mais je suis pas en train. C'est David, tu confirmes?
Bien sûr.
C'est, les débats, c'est ça. C'était pas tant sur la qualité du jeu. Voilà.
David tire avec moi au CSA.
Oui. L'idée qui prévalait en Allemagne.
Moi, ce que j'ai vu là, c'est il y a un recul, il y a une demi-mesure, ça me va pas. Et on est au milieu du guet. Qu'il assume, qu'il aille au bout, qu'il se fasse virer dans 2 ans peut-être, mais au moins qu'on voit le jeu qu'on a vu pendant 10 ans.
Merci beaucoup, messieurs. Bravo. Voilà, merci pour cet acteur.
C'est déjà fini, là.
Ouais. Merci, Arthur Robert. Merci aux équipes techniques, éditoriales, bien entendu, qui nous ont aidé à préparer cette émission.
Merci.
Bonne soirée à tous.
Je peux dire juste un truc à Fred?
Oui.
Et ben, moi, je t'entendais super bien, Fred.
C'est normal. C'est une question d'attitude, tu sais.
Et n'oubliez pas, l'important est la victoire, comme dit Daniel Riolo. Allez, salut, bonne soirée à demain. Ciao.